France Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
Ces dernières années, on assiste à une course aux robots humanoïdes sous l'impulsion des géants de la tech et des laboratoires de recherche. La convergence entre IA générative et mécanique va-t-elle ouvrir un nouveau chapitre de la robotique ? On a vu des robots faire des saltos et des pirouettes, être bousculés avant de retrouver leur équilibre, attraper un paquet de chips ou même saisir un œuf sans l'exploser. Mais on est encore loin de l'humanoïde capable de faire un grand nombre de tâches et de s'adapter à son environnement. Depuis 2 ans, le secteur est en plein essor avec des investissements colossaux, ceux d'Elon Musk aux États-Unis et ceux de la Chine, qui envisagent le déploiement massif de ces technologies. Alors quels sont les défis de la robotique de demain ? Robotique, ah, si j'étais un humanoïde. Jean-Baptiste Mouret, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche INRIA au centre INRIA de l'Université de Lorraine et au laboratoire Loria. Et nous sommes en ligne avec Olivier Stas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche CNRS au laboratoire LAS et responsable du groupe Gepetto. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez à toute heure en podcast sur l'appli Radio France. Vous pouvez aussi nous suivre sur Blue Sky, le départ collectif de Twitter. X continue de s'organiser. Sur notre compte @sciencecqfd, vous retrouverez toutes nos sources et toutes nos ressources. Alors comment l'intelligence artificielle a-t-elle rebattu les cartes de la robotique ? Et quels sont les verrous technologiques avant l'avènement du robot fonctionnel universel ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais d'abord, pourquoi un tel engouement autour du robot humanoïde ? Tour d'horizon avec ce montage sonore.
Plus de 4 millions de robots sont déjà opérationnels dans les usines du monde entier et leur nombre progresse de 10% chaque année. Nouveauté, on voit de plus en plus de robots aux formes humaines parmi eux. Et si certains humanoïdes viennent épauler des tâches cognitives, la plupart d'entre eux se contentent d'aider pour des tâches répétitives.
Ce robot terrorise complètement les réseaux sociaux. NeoBeta, c'est le nouveau robot de l'entreprise norvégienne OneX Technology, un robot humanoïde destiné à assister les humains dans les tâches de la maison, comme faire la vaisselle, faire un café ou nous assister dans la vie de tous les jours. Pour faire vivre ce robot, OneX Technology s'est associé au géant de l'intelligence artificielle, OpenAI. Il embarque donc la toute dernière version de GPT-5. Il sera donc capable d'interagir avec nous, mais aussi de comprendre et d'apprendre du monde qui l'entoure. Et ça commence un tout petit peu à faire flipper tout le monde.
Donner un visage humain à l'intelligence artificielle, c'est aussi prendre le risque de brouiller les repères. Sophia, par exemple, avec ses plus de 200 000 abonnés sur Instagram, pourrait bien faire de l'ombre à ses collègues influenceuses humaines. Elle est d'ailleurs invitée dans les plus grosses émissions américaines.
Rock, paper, scissors, shoot. I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race.
Ils marchent comme nous, ils parlent comme nous, ils sont même capables de travailler comme nous. Dans un show spectaculaire, Elon Musk a présenté sa nouvelle révolution technologique, des robots humanoïdes conçus pour transformer notre quotidien. Dotés d'une intelligence artificielle sophistiquée, les robots Optimus sont capables d'exécuter des tâches complexes, allant de l'assemblage industriel au service domestique. Bientôt commercialisés pour un prix allant de 20 000 à 30 000 euros, l'arrivée de ces robots révolutionnaires est une transformation fondamentale à la civilisation, pour le cofondateur de Tesla.
Mais l'ambiguïté a été poussée bien plus loin, car elle a reçu la nationalité saoudienne en 2017. Un coup de com' de Riyad pour promouvoir sa politique de développement de l'intelligence artificielle, faisant de Sophia non plus seulement une machine, mais une citoyenne.
Voilà un montage sonore réalisé par notre réalisateur Olivier Bétard. Jean-Baptiste Mouret, on a même un peu du mal à suivre la cadence face à un tel investissement et un tel engouement.
Oui, nous aussi on a du mal à suivre en fait, même chercheurs, il se passe des nouvelles choses quasi tous les jours sur ces sujets. Donc c'est à la fois passionnant et difficile de suivre ce rythme-là pour continuer à comprendre tout ce qui se développe.
Olivier Stas, votre réaction vous aussi à l'écoute de ce montage sonore ?
Bonjour Natacha, oui, et je partage une partie de ce que dit Jean-Baptiste concernant le fait qu'il y a beaucoup d'avancées techniques à ce moment-là, surtout dans le domaine de l'intelligence artificielle. Concernant les robots, l'augmentation des robots, c'est surtout dans la robotique industrielle qui est assez éloignée de la robotique humanoïde, on a vu les chiffres augmenter. Du coup, c'est surtout dans les usines où il y a eu beaucoup d'automatisation. On voit pas beaucoup de robots humanoïdes dans les usines. La seule que je connais, moi, c'est Agility Robotics, avec leur robot Digit, où ils ont réussi à démontrer à un salon, il y a un mois, qu'ils étaient capables de faire marcher leur robot humanoïde pendant 2 semaines d'affilée. Et à ma connaissance, c'est le seul cadre applicatif réalistique qu'on a vu jusqu'à présent.
Alors là, aujourd'hui, on va surtout parler, en effet, de robots qui cherchent à avoir cette forme et cette apparence humaine. Première question, peut-être un peu naïve, Jean-Baptiste Mouret. Pourquoi envisager une forme humanoïde pour ces robots et pas une autre physionomie?
Alors oui, il y a plusieurs raisons. La première raison qui est pour moi la plus intéressante, c'est que c'est une forme particulièrement polyvalente. Ça veut dire qu'elle est capable de faire beaucoup de choses. Donc si on part d'un bras industriel, donc un bras unique, comme on le voit dans les usines type usine de voiture, c'est déjà un peu plus polyvalent qu'une machine qui, elle, une machine spécifique pour une chaîne de montage. On peut faire plusieurs choses avec ce robot, par exemple de la peinture, de la soudure, etc. Puis, si on veut aller plus loin, assez rapidement, on va avoir envie de lui mettre 2 bras, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire qu'avec 2 bras, pas avec 1 seul bras. Et donc, on a déjà un peu plus humanoïde, parce qu'on a déjà 2 bras. Et puis, on a envie de lui mettre une caméra, et puis que cette caméra, elle puisse peut-être regarder à gauche, à droite, donc ça ressemble déjà à une tête, et on est un petit peu plus humanoïde. Puis, à un moment, on a envie qu'il se déplace, donc on va peut-être lui mettre des roues, et puis le problème, c'est que les roues, ça marche peut-être pas partout. Et finalement, lui mettre des jambes, ça va être un peu plus polyvalent encore, parce qu'on va peut-être pouvoir monter des escaliers. Donc, on a une forme particulièrement polyvalente qui va pouvoir du coup s'adapter à énormément de tâches, mais qui aussi est beaucoup plus compliquée à contrôler qu'un bras unique, évidemment.
On peut aussi se demander pourquoi pas 6 jambes et 9 bras.
Oui, alors là, il y a un problème de taille. C'est-à-dire que si vous imaginez que dans un environnement comme le nôtre, finalement, c'est fait pour des humains. Donc, on a des tailles humaines, des portes qui ont des tailles humaines, des bureaux qui ont des tailles humaines, etc. Donc, mettre un robot avec 6 bras, 4 jambes, ça peut être très efficace dans un environnement naturel, par exemple sur une planète distante. Mais dans nos environnements, ça prend beaucoup de place. Et donc, finalement, l'humanoïde a à la fois la capacité de polyvalence, mais aussi celle de prendre peu de place sur le sol.
Olivier Stas, donc la forme la plus optimisée pour les robots, ce serait donc l'apparence humaine.
Alors j'aime beaucoup l'approche présentée par Jean-Baptiste. Moi, j'en ai une petite différente. En fait, c'est plus moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait que les êtres humains tous les jours résolvent des problèmes excessivement difficiles. Par exemple, le matin, vous vous réveillez et puis vous cherchez vos clés pour fermer votre appartement, et puis vous dites « Ah bah tiens, je les trouve pas, elles sont pas dans ma poche, qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont peut-être glissé le long de mon pantalon, et du coup elles sont sous mon lit. » Donc du coup, ce que vous allez faire, vous allez mettre vos 2 mains sur le sol, puis vous allez vous pencher, puis vous allez regarder en dessous. Et tout ce processus-là, qui vous paraît naturel, auquel vous n'y avez même pas pensé, eh bien en fait, quand on essaie de le mettre dans un robot, c'est extrêmement compliqué. Et à ma connaissance, même avec les techniques d'intelligence artificielle, j'ai pas vu de robot capable de faire ça à l'heure actuelle. Donc moi, ce qui m'intéresse, et c'est l'intérêt de l'humain, c'est qu'on voit, on se connaît, on peut l'étudier. Il y a plein de collègues biomécaniciens, biologistes qui font des choses merveilleuses. Et en fait, moi, très très humblement, j'essaye de m'inspirer et plein de collègues, pour à mon avis, ont la même approche, de ces capacités impressionnantes qu'on voit chez l'être humain, et les reproduire dans quelque chose qui y ressemble. Et on en est très très loin.
Voilà. De ces tentatives de biomimétisme qui pourraient servir à la robotique, Jean-Baptiste Mouret.
Alors, je ne sais pas si on veut vraiment appeler ça biomimétisme. Alors, biomimétisme a une longue histoire. Donc, c'est s'inspirer de la biologie pour fabriquer des machines, typiquement des robots. Il y a une longue histoire en robotique avec de l'inspiration des insectes, de l'inspiration des animaux à 4 pattes, donc de chiens, et de l'inspiration des humanoïdes. Mais le lien entre la biologie et la forme humanoïde dans les robots actuels reste assez distant. On est rarement en train d'aller regarder comment marche, par exemple, un cerveau humain pour répondre au problème de mouvement d'un robot humanoïde, pour le mettre dans un robot humanoïde. Par contre, on va s'en inspirer des capacités, c'est-à-dire le fait que les animaux soient capables de courir, de sauter, de, par exemple, d'utiliser plusieurs contacts, donc de s'appuyer sur les murs, de résoudre les problèmes comme Olivier les décrivait. Ça, c'est une source d'inspiration, mais pas forcément la manière dont les animaux le résolvent.
Comme on parle aussi de robots qui ont des vocations comme ça, à être aussi des robots sociaux, comme on l'entendait dans ce panel et dans ce montage sonore, est-ce qu'on peut aussi imaginer que cette raison pour que ces robots aient une apparence humanoïde, est-ce qu'il n'y a pas aussi la volonté de faire une machine à notre image?
C'est clairement quelque chose qui a animé l'humanité depuis très 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 longtemps. Donc il y a une volonté de le faire. C'est pas forcément une volonté d'ingénieur, effectivement, donc ça répond pas forcément à une tâche. Et puis, il y a l'idée que, finalement, si on est capable de faire une machine qui ressemble aux humains, qui est quand même quelque chose d'extrêmement compliqué, on peut aussi en faire des versions qu'on va dire dégradées, donc plus simplifiées, qui font des choses peut-être moins difficiles, mais peut-être pour moins cher ou plus rationnelles. Donc, aller très loin là-dedans, pour après pouvoir peut-être simplifier, ça, c'est une démarche qui est largement partagée par beaucoup de recherche.
En tout cas, comme vous dites, hein, historiquement, ça fait très longtemps qu'on s'intéresse aux robots humanoïdes. Olivier Stas, on trouve même des traces dans la mythologie grecque.
Oui, notamment le robot, le géant de fer Talos. Je ne sais plus quelle ville grecque il s'est protégé, mais c'est l'une des premières traces qu'on voit de quelque chose qui ressemble à un robot humanoïde. Ensuite, il y a eu l'automate de Léonard de Vinci. Et là, plus récemment, on a eu donc Asimo, qui a été arrêté en 2019, qui est toujours, à mon avis, très inspirant. Hein. Il y a des choses que ce robot fait qu'on n'arrive toujours pas à refaire. Il y a eu ensuite Atlas, et là, donc, qui sont tous les deux des robots qui coûtaient très très cher. Et là, ce qu'on voit émerger à l'heure actuelle, c'est plutôt des robots qui sont beaucoup moins coûteux, parce qu'ils ont ils sont basés sur un autre design mécanique. Et qui nous permettent d'interagir avec eux. Et juste pour eux, peut-être pour communiquer avec ce que disait Jean-Baptiste, ce qu'on a constaté, c'est qu'avoir des robots qui ont une apparence très humaine, en fait, c'est compliqué. Alors, je vais donner deux brefs exemples. Le premier, c'est la colonne vertébrale. On ne sait pas faire de colonne vertébrale. Et j'adorerais avoir une colonne vertébrale avec mon robot, mais comme l'a dit Jean-Baptiste, on n'arrive pas à les contrôler. Et le deuxième, c'est juste l'Uncanny Valley, là, qui fait que nos collègues qui travaillent surtout sur l'apparence humaine C'est vraiment très difficile. C'est une des raisons pour lesquelles la plupart des robots humanoïdes, comme celui de Boston Dynamics, ils ont un cercle voilà, lumineux à la place d'un visage. Et le seul que j'ai vu qui était vraiment impressionnant, c'était celui récemment de la société anglaise, qui a fait un visage qui est vraiment, vraiment fantastique, extrêmement intéressant, avec une technologie très très poussée.
Avant de reparler de Boston Dynamics et de ces robots qui font en effet du parcours et des pirouettes, de Asimo ou de Atlas, peut-être qu'on peut aussi revenir sur les grands jalons de l'histoire de la robotique. Jean-Baptiste Mouret, peut-être on peut remonter en 1986 pour évoquer les premiers robots marcheurs avec Honda.
Oui, alors avant ces robots marcheurs, il y a eu beaucoup de robots à partir des années 60. Et c'est assez fascinant de se rappeler qu'en fait, ces premiers robots sont arrivés très peu de temps après les premiers ordinateurs. C'était bien avant qu'on ait des PC dans les maisons, etc. Et déjà, on avait envie de faire des robots, déjà, on avait envie de les connecter, et déjà, on avait envie d'aller faire de la robotique avec ces machines-là. Et donc, comme l'illustrait un peu Olivier, un robot vraiment marquant de l'histoire de la robotique humanoïde, c'est Asimo, donc le projet porté par Honda, qui a investi beaucoup, beaucoup de temps, a fait un robot bipède, donc d'abord seulement le bas du corps, d'abord réussir à marcher, et ça leur a pris beaucoup d'efforts, puis aller jusqu'à faire Asimo, donc qui était un robot de bras, de jambes, une tête, capable de monter les escaliers, de courir même, ce qui a aussi pris beaucoup plus de difficultés que ça en a l'air, parce que courir, ça suppose de sauter, et donc d'être dans une période instable, où on peut pas s'arrêter au milieu d'un pas de course. Et donc ça, ce sont des moments très importants. Probablement l'étape importante ensuite pour la robotique humanoïde a été donc le robot Atlas par Boston Dynamics, qui a montré l'étape d'après, après la course, des mouvements très très dynamiques. Donc des choses comme sauter, être capable de bouger très très vite, et encore une fois d'aller en dehors d'un équilibre, donc c'est-à-dire de pouvoir sortir d'un moment où on peut arrêter le mouvement à chaque instant pour arriver à gérer cet aspect dynamique du mouvement. Un moment important ensuite a été probablement ce qui a été organisé par la DARPA. Donc la DARPA, c'est l'organisme de recherche militaire américain qui a fait ce qu'ils ont appelé le DARPA Robotic Challenge en 2015, où là, il s'agissait de mettre des robots en situation dans quelque chose qui était un petit peu inspiré de ce qui aurait été utile après l'accident de Fukushima, même si c'était quand même assez abstrait par rapport à ça. Et donc le robot devait rentrer dans une petite voiture, la conduire, sortir de la voiture, ouvrir une porte, tourner un certain nombre de valves, faire un trou dans un mur avec un outil, donc une sorte de perceuse, monter des escaliers. Et donc ils ont encouragé tout un tas d'équipes internationales à proposer des robots, et ça a permis de voir ce qu'on savait faire ou pas. On a globalement conclu qu'on savait pas faire grand-chose. C'est-à-dire que la plupart ont eu beaucoup de difficultés, beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. Mais ça a permis aussi de faire le point, de voir ce qu'on savait faire.
Oui, c'est que l'accident de Fukushima, Olivier Stas, en effet, ça a été un gros échec aussi pour la robotique japonaise au moment de cette tragédie.
Oui, tout à fait. Les Japonais avaient envoyé des milliers d'emails à Honda en leur demandant d'envoyer Asimo pour pouvoir intervenir. Malheureusement, le robot n'était pas capable de le faire. Et mon intuition, c'est que à partir de ce moment-là, on a moins vu Asimo dans le grand public. Et Honda a commencé à faire d'autres types de robots, plus dédié à des tâches, capable d'intervenir dans des environnements un petit peu hostiles, mais ça reste extrêmement difficile et on est très humble par rapport à ça. À l'heure actuelle, merci Jean-Baptiste pour ce cycle-là, cette démonstration-là, mais on voit qu'en fait on a eu des cycles. Donc il y a eu le premier cycle avec Asimo, le deuxième cycle avec Atlas. Et à chaque fois, on retrouve ce qu'on a à l'heure actuelle, une sorte d'agitation autour des robots humanoïdes. Donc, on a pris, je dirais, être un peu prudent. Et donc, du coup, il y a des magnifiques avancées, là, notamment les robots deviennent beaucoup. Je pense qu'une des grosses différences par rapport à ces cycles précédents, c'est que les nouveaux robots qu'on voit, notamment avec les robots chinois, sont beaucoup moins chers. Ils sont vraiment accessibles. Donc, on a Unitree, par exemple, qui vend des robots qui sont 10 fois moins chers. Voire 100 fois moins cher pour commence à devenir accessible à des gens un petit peu riches, mais ça reste accessible. La grande pierre d'achoppement à chaque fois, ça a été l'utilité. Est-ce que le prix valait ce que le robot était capable de faire? Et c'est là où, comme l'a dit Jean-Baptiste, des choses comme le DARPA Robotic Challenge, ça permettait de faire le point. Et on est probablement dans une phase un petit peu d'ébullition. Les gens vont faire le point et voir. On verra d'ici un an ou deux si ça aboutit à quelque chose. Mais en tout cas, donc la première jalon, c'est Digit avec Agility Robotics, qui a montré qu'en logistique, ils avaient peut-être une application intéressante.
On entre en effet aujourd'hui dans un nouveau cycle. Alors quelles sont plus précisément ces technologies qui ont permis l'accélération du développement de ces robots? Et pourquoi l'intelligence artificielle change-t-elle la donne? Restez avec nous.
Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
Avec nos deux invités, Jean-Baptiste Moury et Olivier Stas, en direct sur France Culture, nous parlons de l'humanisation des robots. On vient de voir que si on veut un robot polyvalent, adapté à notre environnement d'humain, la forme humanoïde s'est imposée assez rapidement. De plus, c'est une forme sur laquelle les chercheurs ont beaucoup travaillé. On vient aussi de parcourir un peu les grands jalons de cette histoire de la robotique. Alors avant de parler des IA, il y a le côté mécanique. Jean-Baptiste Moury, quels sont justement les nouveaux moteurs électriques qui ont permis à ces robots d'avoir une marche fluide, de courir, de faire des saltos?
Oui, donc un robot, d'autant plus humanoïde, doit bouger. On peut bouger avec différentes technologies. On a rapidement essayé de faire des moteurs électriques, mais un moteur électrique, en fait, développe pas la force suffisante pour permettre à un robot de bouger. Donc, il faut lui adjoindre un réducteur, donc une suite d'engrenages qui permettent de démultiplier la force. Ça a tout un tas de défauts. Le premier, c'est que ça coûte cher, c'est-à-dire que c'est la mécanique de précision. Ensuite, ça rajoute des jeux partout. Et puis, ça permet pas de contrôler précisément la force qui est appliquée par le moteur, puisque entre le moteur et la sortie du réducteur, il y a beaucoup de choses. Donc, il a fallu chercher des moyens d'avoir des robots qui sont capables de bouger plus vite et plus fort. Une approche qui a eu beaucoup de succès chez Boston Dynamics a été de développer des actionneurs hydrauliques. Donc, un peu comme ce qu'on peut avoir sur des pelleteuses, sauf que ça doit être miniaturisé, ça doit être contrôlé très précisément. Et en fait, c'est un peu la seule entreprise au monde qui a été capable de maîtriser le contrôle fin d'actionnement hydraulique sur des robots. Mais ça reste compliqué et cher. Et donc pas forcément satisfaisant si on veut répandre les robots humanoïdes partout.
Puis quand ça tombe, ça fuit.
Alors, quand ça tombe, ça fuit. Il y a quelques vidéos, on les voit qui fuient. Effectivement, c'est un peu particulier. Donc, il y a une nouvelle étape qui est assez récente, qui est de changer le type de moteur avec des moteurs qui sont essentiellement issus de la technologie des drones. Donc, les drones sont beaucoup développés. On a commencé à faire des drones de plus en plus gros. Et on a découvert qu'il y avait des moteurs qui tournaient plutôt plus lentement avec plus de force qui permettait de réduire le nombre d'étages de réduction, donc le nombre d'engrenages dans le robot. Et ça, c'est très très utile pour un robot humanoïde qui va donc être pouvoir capable de réagir très très vite avec un robot qui coûte moins cher, donc tout ce qu'on cherche. Et c'est une histoire aussi assez intéressante scientifique, parce que c'est vraiment, ça part de la raison pour laquelle on arrive à faire ce type d'aimant. Ça vient des, enfin, ce type de moteur, ça vient des aimants qui ont été inventés dans les années 80, qui s'appellent des aimants en néodyme. Donc, c'est vraiment de la physique fondamentale, où on a inventé un type d'aimant, on a travaillé sur ce type d'aimant, et ces aimants maintenant se retrouvent dans des moteurs, y compris dans les voitures électriques et donc les robots humanoïdes, et vont peut-être permettre de faire des robots humanoïdes. Alors que tout ça vient finalement de la physique pure et dure dans un laboratoire de physique.
C'est ça, c'est que Tesla, Boston Dynamics, Figuria, ces entreprises existent grâce à un travail académique qui a précédé ce développement industriel.
Alors il y a énormément de développement académique, ne serait-ce que parce que finalement, pour faire ce type de robot, il faut y croire. Et donc les laboratoires y croient depuis longtemps que c'est un sujet intéressant en tout cas, pas forcément avec une application claire à court terme en vue, mais que c'est un sujet intéressant et important, comme l'expliquait un peu Olivier tout à l'heure. Et donc, ça fait très longtemps que les laboratoires ont développé des technologies qui permettent à un robot de tenir en équilibre, qui permettent à un robot de ne pas tomber dans ses différents mouvements. Donc, un point important pour un robot humanoïde, c'est par exemple, si je me penche pour ramasser quelque chose par terre, je vais me pencher, mais je vais devoir reculer mes fesses. Donc, je vais devoir prendre en compte l'ensemble de mon corps pour pouvoir bouger. Ce qui est très différent d'un bras robot où finalement on le bouge et on se soucie pas tout le reste parce qu'il est fixé à la table. Là, on doit prendre en compte tous les moteurs, tous les mouvements ensemble dans une seule question qui est comment je bouge l'ensemble de mon corps. Et ça, c'est des techniques qui ont été développées par les laboratoires depuis une vingtaine d'années, qui maintenant fonctionnent et qui permettent de dire, OK, maintenant, on a résolu peut-être les gros problèmes du mouvement. Maintenant, c'est le temps d'essayer avec une entreprise de mettre du capital sur la table pour essayer d'aller un cran plus loin et de le faire pour de vrai. Mais s'il n'y avait pas eu ce développement académique avant, on serait incapable de tester des robots humanoïdes comme on le fait maintenant.
On a donc eu, on a fait cette nouvelle technologie de moteur électrique qui rend les robots plus dynamiques et moins chers. Olivier Estas, l'aspect décisif, c'est vraiment l'accélération des IA. Ah, si vous êtes toujours avec nous.
Oui, oui, tout à fait. Vous m'entendez?
Oui, oui, j'ai eu peur que...
Pardon. Oui, non, je suis toujours là. Oui, à l'heure actuelle, c'est donc basé sur tout ce qu'a dit Jean-Baptiste. Donc, cette connaissance qu'on a à la fois de la mécanique et de l'information qu'il faut donner au robot pour le faire conserver son équilibre. Ça a bien été utilisé à l'heure actuelle ou récemment dans les IA, avec les IA, donc notamment avec des approches type apprentissage par renforcement, où en fait ce que va faire le système, donc à travers des GPU, donc ce qui est un petit peu similaire à ce qu'on fait nous quand on fait de l'entraînement, par exemple au foot, quand on apprend un sport, on s'entraîne, on le fait plusieurs fois, donc. Les approches d'intelligence artificielle qui ont été développées, elles permettent en fait aux robots de simuler des années d'entraînement ou d'expérience en très peu de temps. Donc nous, on arrive à le faire en quelques heures. Et le robot, en simulation, il se trompe, il s'apprend, puis au fur et à mesure, il arrive à trouver les bons gestes, la bonne direction. Et en fait, on s'est rendu compte que les clés, donc on a utilisé des algorithmes qui venaient de nos collègues d'intelligence artificielle dont Jean-Baptiste a fait des avancées vraiment impressionnantes. On a réussi à utiliser les connaissances des roboticiens pour réussir à faire ça. Et donc, du coup, maintenant, sur votre ordinateur personnel, avec les derniers logiciels qu'on a vus qui sont sortis en mois de décembre, là, on arrive en 76 secondes, à avoir un robot quadrupède qui apprend à partir de rien une façon de marcher. Voilà, ce qui est assez impressionnant.
Ça, c'est que les grands modèles de langage qui sont utilisés par des IA comme ChatGPT ont vraiment changé la donne, Jean-Baptiste Mouret.
Oui, en fait, il y a eu énormément d'investissements dans les 10 dernières années sur l'intelligence artificielle et il y a eu plein de branches qui se sont développées. Donc une première, c'est qu'on a fait d'énormes progrès, comme le disait Olivier, sur la partie locomotion, contrôle en gros bas niveau d'un robot, c'est-à-dire lui demander d'avancer et qu'il sache comment bouger ses pattes. Et ça s'est passé avec des algorithmes qu'on appelle algorithmes d'apprentissage par renforcement, par essai-erreur essentiellement, ou en simulation, on va essayer plein de manières de marcher jusqu'à ce qu'on en trouve qui fonctionne. C'est une première phase qui était nécessaire pour avoir un robot humanoïde, c'est un des ingrédients, parce que si on n'est pas capable de bouger, on va pas pouvoir faire le reste. En parallèle de ça, il y a l'arrivée des grands modèles de langage que tout le monde a pu essayer avec ChatGPT maintenant, qui finalement sont très bien alignés avec les robots humanoïdes, parce que leur grande force, c'est d'être très très polyvalent. Donc c'est pour moi extrêmement impressionnant qu'on puisse se connecter à ChatGPT, lui parler d'une recette de cuisine et avoir des informations, lui parler de robots humanoïdes et d'avoir aussi des informations intéressantes, voire lui demander de programmer quelque chose et qu'il y arrive aussi. Donc qu'un seul système soit aussi polyvalent, ça ouvre des perspectives très très importantes, parce que finalement, avec ce système polyvalent d'intelligence, on va pouvoir y mettre une forme polyvalente qui est celle d'un humanoïde et espérer avoir à la fin un robot polyvalent. Donc on puisse lui demander un peu n'importe quoi et qu'il ait des bonnes chances d'avoir les capacités de le faire.
L'IA permet de combiner la polyvalence de la mobilité avec l'adaptation à diverses situations. On a donc en effet le robot figure 01 de OpenIA et on a tout un tas d'investisseurs qui sont d'ailleurs aussi des géants de la tech, Jean-Baptiste Mouret.
Oui, c'est-à-dire que là, on se dit à quoi vont servir nos modèles d'intelligence artificielle, tous ceux qu'on a pu voir type ChatGPT, et malgré qu'ils aient l'air très utiles, on cherche encore vraiment comment on va les intégrer, comment ils vont être utiles à la société. Et une manière, c'est de les mettre dans un corps, donc d'un robot, et puis finalement d'exploiter leur capacité à avoir une sorte de sens commun, un peu statistique, de comprendre ce qu'on veut dire avec quelques mots, quelques phrases, pour pouvoir s'en servir, pour faire un peu tout ce qu'on a envie. Probablement des choses très simples, pas forcément des tâches extrêmement compliquées. On ne parle pas forcément d'intelligence qui serait superhumaine ou beaucoup plus poussée que celle d'un humain, mais déjà avoir quelque chose d'équivalent à, par exemple, un chien, où on peut donner des ordres et que ça fonctionne, ce serait déjà une première grosse étape. Et après, des choses très simples pour nous, mais pas forcément simples, et en tout cas, pour l'instant, on ne sait pas faire en robotique, du type demander au robot d'aller chercher le café. Ça peut être quelque chose, mais au même robot, après, lui demander de participer à une chaîne de montage et de déplacer un objet d'un tapis roulant A à un tapis roulant B. Donc, ce type de polyvalence, d'universalité, est quelque chose qui semble atteignable en combinant à la fois les progrès en robotique humanoïde, les progrès en gestion du mouvement et les grands modèles de langage. Et si on combine tout ça, ça semble quelque chose qu'on peut atteindre.
Côté investissement, Olivier Stas, l'engouement pour ce secteur, on voit qu'il y a des investissements et des sommes énormes qui sont mises sur la table. En termes d'investissement, ça représente quoi et qui sont les investisseurs ?
Pour Figure 01 dont vous parliez, il me semble qu'ils ont un accord avec BMW qui est à hauteur d'à peu près $500 millions. On a vu des premiers tests de figures dans les usines où le robot, pour être tout à fait honnête, il apporte péniblement une pièce sur la chaîne de montage. Et le problème qu'on a là-dedans, c'est qu'on n'a pas de, on ne sait pas la robustesse et la réputabilité de ce genre de processus. Je peux vous garantir qu'en laboratoire, nous on fait pas mal de démonstrations. Je sais que Jean-Baptiste en fait aussi. On a des taux de succès qui avoisinent entre 60 et 70%. Il y a Google DeepMind qui avait fait un papier qui s'appelait Palm-E, qui était un des premiers systèmes où on demandait au robot « va me chercher les chips ». Et donc le robot tout seul allait dans la cuisine, ouvrait un tiroir, prenait les chips dans le tiroir, les mettait sur la table de la cuisine, fermait le tiroir, reprenait les chips et le revenait. Et les taux de réussite sont de 50%. Alors, il y a des très, très grandes améliorations. Et donc, il y a d'énormes investissements. Donc, ce qu'on voit à peu près sur les robots humanoïdes avec des grosses sociétés, donc il y en a à peu près trois. Il y a Tesla, il y a Figure et Agility Robotics. On est entre 500 millions et 1 milliard. Le problème qu'on a à chaque fois, c'est est-ce que l'application finale sera financièrement viable ? C'est là où c'est pas complètement évident.
Oui, c'est-à-dire dépenser je ne sais pas combien de centaines de milliers d'euros pour un robot qui va chercher des chips, est-ce que ça vaut vraiment le coup, Olivier Stas, c'est ça ?
Alors, tout à fait. Donc, il y a Unitree qui propose leur robot à 16 000 euros. Je crois que c'est le G1 qui fait à peu près 1m30. On a vu une petite entreprise chinoise qui faisait un robot assez fantastique à 35 000 euros. Ce qui est déjà pas mal, parce que les robots les moins chers, ils sont entre 100 et 200 000 euros. Et après, le problème qu'il y a, c'est que quand il faut utiliser une intelligence artificielle, si les requêtes qu'on fait, elles coûtent 3 000 euros la requête, ça va pas du tout être financièrement viable. Voilà.
Alors en Chine, on n'a pas les chiffres exacts, mais ça doit dépasser le milliard. Jean-Baptiste Mouret, quel engouement en France ? On n'a pas de grandes entreprises comme Tesla, mais est-ce qu'on développe quand même ces outils ?
Alors, pas à cette échelle, effectivement. Donc, pour donner un ordre de grandeur, le figure, ils avaient plus de 700 millions d'investissements. Ça représente trois fois le budget de l'INRIA, donc l'Institut de Recherche en Informatique auquel j'appartiens, de tous les chercheurs sur un an. Donc ça représenterait si l'ensemble de l'Institut travaillait seulement sur ce projet pendant trois ans. Donc c'est des choses qui sont complètement déconnectées de ce qu'on peut voir dans le monde académique. Ceci dit, donc côté académique, on y travaille. Il y a plusieurs laboratoires, dont les nôtres, qui travaillent ardemment autour de ces sujets-là. Côté entreprise, alors on n'a pas les gros investissements qu'on peut voir aux États-Unis. Il y a une entreprise qui s'appelle Uncharted Tools, qui a été créée il y a quelques années, pas très longtemps, qui fait un robot donc qu'on va appeler humanoïde parce qu'il a deux bras, une tête, mais qui se déplace sur une sphère. Donc il n'a pas de jambes. Qui est une des entreprises françaises qui développe un robot humanoïde en ce moment. On a d'autres entreprises qui font des choses qui sont liées aux humanoïdes, mais qui sont pas forcément celui que vous imaginez en premier lieu. Par exemple, Vandercraft, qui est une entreprise qui fait un exosquelette pour le bas du corps. Donc c'est quelque chose qu'on va mettre sur soi, sur le bas du corps. Et eux, ils le font essentiellement soit pour la rééducation, donc après un accident de voiture, par exemple, quand il faut faire bouger les jambes d'une manière spécifique et réapprendre à marcher, ou pour aider un patient tétraplégique à marcher, donc remplacer un fauteuil roulant. Et en fait, ça, c'est un humanoïde, au sens où, finalement, on prend le bas du corps d'un humanoïde, on le fixe à quelqu'un, et on va utiliser des algorithmes extrêmement proches de ceux des humanoïdes pour se déplacer. Ce qu'on n'a pas encore, mais on aimerait bien voir ça arriver, sont cette convergence entre des robots humanoïdes et des grands modèles de langage et d'intelligence artificielle pour essayer de faire le package complet. Ça, on le voit pas encore en France.
C'est surtout le côté logiciel et mathématique où la France performe sur la robotique. On a même l'algorithme Pinocchio qui est utilisé par le robot de Tesla, hein, par exemple, qui a été développé en France, donc il y a un peu de code français dans le robot Tesla. Mais alors maintenant, quelles sont les limites et les difficultés de la conception de ces robots ? Restez avec nous. Dance the Surfing Robot de The Surfing Robots en direct sur France Culture, car nous parlons de l'engouement autour des robots humanoïdes, des robots marcheurs qui séduisent les labos de recherche et les industriels. On en parle avec nos deux invités du jour, Jean-Baptiste Mouret, directeur de recherche INRIA au Centre INRIA de l'Université de Lorraine et au laboratoire Lauria, et Olivier Stas, directeur de recherche CNRS au laboratoire LAS et responsable du groupe Gepetto. On vient de voir qu'aujourd'hui les robots de type bras articulés ont certaines polyvalences, ils peuvent faire quelques tâches différentes, mais c'est très loin de l'humanoïde qui serait capable de faire un grand nombre de tâches et de s'adapter. Olivier Stas, comment obtenir un robot un peu universel, capable justement de se repérer, de comprendre les ordres et de transformer tout ça en action ?
C'est une question qui est extrêmement intéressante. Ça, on revient un petit peu aux questions initiales qui étaient savoir quelle est la meilleure forme pour faire faire une certaine application. Je pense que pour nous, encore une fois, c'est assez facile en fait de s'inspirer de nous. Et pour redire un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, moi, ce que je trouve extrêmement fascinant, c'est le fait que l'être humain est capable de résoudre des problèmes très compliqués et sans forcément d'avoir besoin d'une éducation très poussée. Je vais vous donner un exemple assez simple qui est assez historique. C'est vous prenez les ouvrières qui plaçaient les patrons sur les grands morceaux de tissu. Donc vous imaginez des tissus, hein, c'est des rouleaux qu'il fallait mettre sur une table. Et puis en fait ensuite il fallait découper les patrons dans le tissu. Et le but à chaque fois qu'on essayait de faire, bah, c'est de conserver le maximum de matière, le maximum de tissu. Et en fait, pas mal d'études ont montré qu'une ouvrière qui avait un petit peu d'expérience, eh bien, elle arrivait très très rapidement, pratiquement à l'optimum, sachant que quand on essaie encore une fois de résoudre mathématiquement, ce genre de problème-là est très très compliqué. Donc du coup, quand on regarde une tâche qu'on veut faire, et à l'heure actuelle, ce qu'on constate très souvent, c'est que quand on essaie de déployer un robot dans une usine, très très souvent, aller exploiter un être humain dans un pays où il n'y a pas de protection sociale coûte beaucoup moins cher que d'essayer de développer un robot qui va tomber en panne, qui va pas être capable de réussir à faire la tâche, etc. Du coup, voilà, ça c'est un petit peu les challenges qu'on va avoir avec ces nouveaux robots humanoïdes.
Par rapport au challenge de ces robots humanoïdes, Jean-Baptiste Mouret, je pense aussi, on a beaucoup parlé de mouvement, mais quand même, ça fait partie des limites actuelles. Hein, pour un mouvement d'un robot humanoïde, il y a un grand nombre de mouvements différents, ce qui complique quand même la tâche sur justement l'apprentissage et la gestion de ces intelligences artificielles.
Oui, alors on a parlé tout à l'heure de l'histoire de la robotique humanoïde, très rapidement, mais en parallèle, il y a une énorme histoire de l'intelligence artificielle. Où, dès les années 60, donc des robots mobiles ont commencé à être développés, avec toujours cette même question d'aller chercher le café ou quelque chose d'équivalent, qui semble trivialement simple pour un humain et que, après plus de 60 ans de recherche, on est toujours incapable de réaliser de manière générale. Et donc là-dedans, il y a eu plusieurs étapes. Et on s'est rapidement aperçu que d'abord que c'était beaucoup plus dur que ça en a l'air, parce qu'il y a beaucoup d'implicites dans dans le mouvement d'un robot ou d'un acteur en général, de quelque chose qui bouge. Donc c'est quelque chose qui a été appelé en anglais « frame problem » dans les années 70-80, qui en gros est le problème du sens commun. Comment est-ce qu'on va donner du sens commun à un robot ? C'est-à-dire que si je lui dis « va chercher le café », il doit comprendre des tas de choses. Il doit comprendre que peut-être s'il y a une porte, il doit l'ouvrir. Il doit comprendre que ce que je veux dire par café, c'est-à-dire vous avez compris que c'était un liquide dont je parlais, mais il pourrait penser des grains de café ou même la plante de café. Et cette connaissance implicite, ce qui a été fait dans les années 60, a été encodé sous forme de millions de règles. Et on s'est aperçu que c'était impossible de réussir à trouver toutes ces règles. Donc, ce qui est nouveau maintenant, c'est grâce aux modèles de langage qui vont avoir ingurgité l'essentiel des textes qu'on a produits depuis l'avènement de l'humanité, donc tout ce qu'il y a sur Internet, tous les livres, etc., c'est que finalement émerge une sorte de sens commun là-dessus qui ressemble à ce que nous, on peut avoir. Vous avez très bien compris de quoi je parlais quand je parlais du café. Et les modèles de langage y arrivent aussi et vont comprendre à peu près ça. Et on peut faire l'exercice, vous mettez dans le chat GPT, vous lui dites, imaginez que vous êtes un robot humanoïde, imaginez que vous devez faire le café, donnez-moi avec tous les détails possibles ce qu'il faut faire. Il va en extraire une suite d'actions qui est tout à fait raisonnable, qu'après on va pouvoir essayer de connecter aux actions du robot. Ça c'est une première étape. Maintenant, à côté de ça, il faut quand même que le robot fasse cette connexion entre ouvrir la porte et l'ouvrir pour de vrai. Ce que font la plupart des entreprises actuelles, parce que c'est ce qu'on sait faire de mieux pour l'instant, c'est utiliser des démonstrations pour ça. Donc, ils ont embauché, donc Tesla, par exemple, embauche des téléopérateurs 24h/24, mais les autres entreprises équivalentes font la même chose, pour téléopérer un robot, donc l'opérer à distance. On met soit un casque de réalité virtuelle, soit en face d'un écran, on a des joysticks dans la main, et on va lui montrer comment ouvrir des portes toute la journée, on va lui montrer comment attraper des tasses toute la journée, on va lui montrer un maximum de choses, et on espère qu'on va réussir à avoir suffisamment de données pour finalement couvrir la plupart des tâches utiles. Et une fois qu'on a ça, on va chercher, et on est actuellement en train de chercher dans les laboratoires et dans ces entreprises-là, la meilleure manière de connecter toutes ces démonstrations au langage. Et ça, on ne sait pas encore le faire vraiment, donc c'est vraiment une question scientifique du moment. On a deux choses qui finalement sont difficiles à connecter, parce qu'il y en a une qui parle Donc le mouvement qui va parler du continu, donc quelque chose dans l'espace précis, peut-être la poignée d'une porte par exemple, elle a une forme, et on n'a pas forcément des mots là-dessus. Tout le monde n'est pas capable de décrire en détail la forme de la poignée de la pièce ici. Et en même temps, on a du langage. Et puis ces choses-là, il va falloir faire une glue intelligente.
Donc il faut entraîner les robots à reconnaître des mouvements comme on a entraîné les IA à reconnaître des images ou le mot chat.
Voilà, donc pour l'instant, tous ces robots humanoïdes, par démonstration, leur montre des tas de choses. Et un grand enjeu pour beaucoup d'entreprises qui se lancent dans la robotique humanoïde intelligente est d'avoir ce gros jeu de données qu'ils ne partagent pas, évidemment. Tout le monde pense que ça va être un des éléments clés, c'est d'avoir le bon jeu de données massif de démonstration sur des robots.
Olivier Estas, vous souhaitiez réagir?
Oui, je vous remercie. Non, parce que je trouve que ce que dit Jean-Baptiste est extrêmement intéressant. Et j'avais notamment quelque chose qu'on arrive à faire à l'heure actuelle, qui a commencé à émerger l'année dernière. C'est notamment quelque chose qu'on fait, nous, très naturellement. C'est... Quand vous apprenez un sport, j'aime bien cette analogie-là, souvent on vous le montre. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que, par exemple, quand vous dites à quelqu'un « mettez-vous debout », vous ne dites pas quelle est la tension qu'il doit faire dans chacun de ses muscles, chose que nous, on fait pour un robot. En fait, vous lui dites « mets-toi debout », et tout le monde le fait, sachant que c'est différent pour tout le monde. Voilà. Et il y a des processus qui sont extrêmement intéressants, où, par exemple, quand un enfant n'est pas capable de faire un mouvement, par exemple monter sur un tabouret, qui voit un autre enfant monter sur un tabouret, et ben en le voyant, il est capable de projeter ses propres mouvements dans ce qu'il a vu et de le refaire. Et ça, ce genre de, comment ça s'appelle, de concept qu'on voit chez les êtres humains, on commence à les voir apparaître chez nous, et c'est assez fantastique. Et donc notamment, on a fait un papier là-dessus cette année qui était assez fantastique. J'y croyais pas, pour être tout à fait honnête, avec un autre post-doctorant qui a pris des milliers de vidéos sur Internet. Et donc, du coup, il a fait un processus qui était capable de détecter si c'était de la marche, si c'était du saut ou se mettre debout. Et notre robot, en se voyant, en essayant de faire la même chose, il arrivait aussi à déterminer, à apprendre comme ça, simplement par ces vidéos-là, à se mettre debout ou à courir. Voilà. Et donc ces processus-là dont parle Jean-Baptiste, qui sont extrêmement intéressants, effectivement, la suite, c'est de pouvoir les lier au langage. Voilà. Mais toute cette nouveauté en IA qui se croise avec la robotique humanoïde, c'est vraiment extrêmement intéressant.
Comme on le dit, parmi les enjeux liés à l'humanisation des robots, il y a donc cet accès aux données d'entraînement. Pour le reportage du jour, Noémie Eliazor a serré la pince d'un robot humanoïde conçu par une start-up bordelaise. Bonjour Noémie.
Bonjour Natacha. J'ai rencontré Pierre Rouanet, cofondateur de la start-up Pollen Robotics. Il m'a présenté Richie, le robot humanoïde qu'il a conçu avec son équipe. La particularité de Richie, c'est que c'est un robot open source. Cela signifie que ses plans et ses codes sont en accès libre, ce qui permet aux utilisateurs de pouvoir le modifier à leur guise. Cette transparence favorise un développement collaboratif et propose une solution éthique pour entraîner ce robot.
Donc c'est un robot qui est de forme humanoïde, donc qui fait à peu près, faut imaginer un robot qui fait à peu près la taille d'un humain, qui a un tronc, deux bras articulés avec des degrés de liberté assez proches de la morphologie humaine, qui a une tête qui là encore est assez inspirée de l'humain. Donc on dit inspiré parce qu'on s'inspire de traits caractéristiques, mais on ne veut pas aller dans la copie. On veut plutôt imaginer une créature un peu anthropomorphe, mais pas faire une copie d'un humain. Donc il a des antennes pour avoir un côté un petit peu plus sympa, ce genre de choses. Pareil, il a un petit t-shirt pour là encore essayer de le rendre un peu plus sympa. Et il est sur une base mobile. Donc là, pour le coup, on s'est assez éloigné de ce qui existe chez l'humain. Mais on a une base mobile à roues qui lui permet de se déplacer facilement dans des espaces même assez exigus sans avoir toute la complexité des jambes humaines et de la locomotion bipède.
Richie est principalement designé autour de la manipulation. Il n'a pas une main, mais il a une pince avec laquelle il peut saisir des objets sans pour autant avoir toute la complexité de la main humaine qu'on a encore beaucoup de mal à reproduire en robotique. Mais ce n'est pas tout. Richie a aussi des capacités liées à l'interaction.
On a toujours voulu qu'il ait une tête. Parce que c'est important, par exemple, de regarder ce que le robot regarde, ce qu'il est en train de faire. Quand il veut saisir un objet, on commence par le regarder, après on le saisit. Ce qui permet encore aux humains qui sont à côté de lui de mieux comprendre ce qu'il est en train de faire, de mieux pouvoir anticiper, d'avoir moins d'appréhension.
Est-ce qu'il peut s'exprimer, est-ce qu'il peut communiquer avec nous ?
Alors effectivement, il a des yeux et pas de bouche, pas de nez. Alors c'est à la fois pour des questions de design et puis d'intégration mécanique, parce que c'est compliqué là encore d'intégrer tous ces caractéristiques-là dans une tête. Mais il peut quand même s'exprimer, donc il a un haut-parleur qui est placé dans son buste. Il parle un peu, si vous voulez, comme un ventriloque, on pourrait dire ça
il
comme
ça.
Il
parle avec son cœur.
Voilà, exactement. Pareil, ses antennes, en fait, ne lui servent pas à entendre. C'est plutôt justement pour exprimer des émotions, on peut plutôt penser par exemple à la queue d'un chien, ça va plutôt être ça. Et en fait, pareil, il a un micro qui est là encore dans son torse. Et de la même manière, en fait, il y a aussi des problématiques assez techniques par rapport à ça. Si on place le micro dans la tête, ben on a tous les bruits parasites, des mouvements de la tête, du cou, etc., qui rendraient sa capacité d'audition plus compliquée. Donc là, le mettre dans le torse, ça permet de l'isoler un peu mieux et de finalement mieux entendre.
Donc Ritchie a des fonctionnalités basiques qu'on vient de décrire, et les utilisateurs peuvent aussi le modifier librement car il fonctionne avec une plateforme open source.
On veut que nos clients puissent se l'approprier, puissent comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, que ce ne soit pas du tout une boîte noire, mais qu'ils puissent, par exemple, on a des clients qui travaillent sur plutôt la conception d'une espèce de peau tactile, et donc ils veulent pouvoir modifier légèrement la morphologie du robot pour pouvoir venir greffer cette peau, par exemple, sur les bras. On a d'autres personnes qui s'intéressent plutôt aux actuateurs qu'on développe, donc par exemple l'actuateur spécifique qu'on a pour le cou et le poignet, donc il y a un actuateur... 3 degrés de liberté un petit peu spécifique qu'on a conçu. Et on a d'autres personnes qui veulent l'utiliser ça vraiment plutôt comme une prothèse, permettre de faire des prothèses pour des personnes handicapées, par exemple amputées au niveau de l'humérus, et venir quelque part remplacer le poignet manquant, ce qui est aujourd'hui très peu le cas dans les prothèses, hein, qui sont plutôt juste un simple bâton avec un grippeur au bout. Donc voilà, pour que des gens puissent venir intervenir à des niveaux très différents. De la même manière, on a aussi des gens qui travaillent plutôt sur des questions d'IA. Donc là, ils vont plutôt utiliser la plateforme mécanique telle quelle, pas trop la toucher, mais ils vont venir intervenir plutôt sur des questions de contrôle. Donc par exemple, venir modifier la manière dont on fait bouger la tête, par exemple, si on veut suivre une personne du regard, comment on va pouvoir faire ça. Donc voilà, le fait de pouvoir venir intervenir à des niveaux très différents, et tout en essayant de mutualiser ses efforts, les centraliser, les échanger. Si une personne, par exemple, développe une nouvelle main pour venir le mettre à la place de notre pince, ben, peut-être qu'un autre client va être intéressé par ça et va vouloir la réutiliser. Voilà, centraliser un petit peu ces choses-là. Donc, parmi les autres manières d'utiliser le robot qu'on propose, il y a effectivement la téléopération, donc qui est une manière très, très puissante et très importante pour nous d'utiliser le robot. Parce que, en fait, ça permet de, quelque part, se plonger dans le corps du robot, dans ses capacités, pour voir ce qu'on est capable de faire. Donc, c'est-à-dire qu'il faut imaginer une personne qui met un casque de réalité virtuelle sur la tête. Donc, directement, elle voit à travers les yeux du robot. Donc, elle, c'est comme si elle était, voilà, physiquement dans le robot. Et elle a aussi des manettes de réalité virtuelle. Donc, là encore, des choses qui maintenant deviennent assez, assez classiques. Et en fait, en bougeant ses bras, elle va directement bouger les bras du robot, et avec une gâchette, elle va pouvoir venir ouvrir et fermer la pince. Et ça va nous permettre vraiment de tester, voilà, des applications de manière très, très simple, très facile, et quelque part de tester qu'est-ce qui se passerait si on avait une intelligence, au niveau d'une intelligence humaine, qu'est-ce qu'on serait capable de faire. Donc par exemple, on peut imaginer, si on veut tester, est-ce qu'avec notre robot, on est capable d'utiliser une machine à café classique. Ou est-ce que ça demande une manipulation un peu trop fine et on ne va pas être capable. Mais là, très simplement, voilà, en téléopération, on prend le robot, on se déplace jusqu'à la machine à café, on essaie et on voit si on y arrive ou pas.
Cette approche permet de tester des problèmes mécaniques ou des problèmes de perception ou de cognition, mais aussi de collecter des données sur la manière de faire certaines tâches.
Ça, en fait, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on utilise beaucoup d'approches type IA et on parle de deep learning, de transformers, de toutes ces nouvelles approches-là qui utilisent en fait énormément de données d'apprentissage pour arriver à les généraliser et après à aller vers l'autonomie. Et pour ça, il faut être capable déjà d'avoir des données d'exemples de ces tâches-là qui soient de bonne qualité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait déjà une idée de à quoi ça ressemblerait un robot qui par lui-même est capable d'actionner la machine à café. Et donc en demandant à un opérateur de faire ça, et de faire ça dans des conditions différentes, de faire ça avec différentes machines à café, de faire ça un jour où il fait beau, un jour où il fait gris, de faire ça avec une machine à café qui est posée sur une table, de faire ça avec une machine à café qui est un peu plus en hauteur, etc. Et on va collecter comme ça plein d'exemples de cette tâche-là, jusqu'à être capable de la résoudre de manière autonome.
Merci Noémie Eliazor pour ce reportage. Jean-Baptiste Mouret, pour compléter rapidement ce qui vient d'être entendu, par rapport aux applications, quelles sont les applications de ces nouveaux robots humanoïdes qui sont imaginés et en développement en ce moment ?
Alors, c'est une question très compliquée parce que...
C'est pas juste le café.
Parce qu'en fait, on ne sait pas et on cherche. Et c'est probablement ce qu'on cherche le plus en ce moment, c'est quelle est l'application pour laquelle on va être prêt à acheter des robots. Donc... Je pense qu'il ne faut pas penser pour les humanoïdes en termes d'une seule application ou d'un tout petit nombre d'applications. Leur richesse, ça va être d'être le plus polyvalent possible. Donc on peut essayer d'imaginer un robot qui peut-être va pouvoir être loué un jour pour pouvoir faire le serveur dans un restaurant, le lendemain, le même, travailler dans une usine, et le surlendemain, peut-être aider justement à faire le café. Et c'est cette polyvalence qui va... potentiellement être intéressante et surtout pas une tâche particulière parce que du fait de leur complexité, ce type de robot sera probablement toujours plus mauvais qu'un robot spécialisé ou qu'une machine spécialisée pour une tâche spécifique. Mais quand on a besoin de flexibilité, c'est là où on a besoin d'un robot qui peut un peu tout faire ou qu'on peut peut-être louer pour deux jours et puis le rendre. Et puis le lendemain, il fait quelque chose de très différent.
Ça me fait penser que le terme robotique vient du tchèque, du mot robota qui signifie corvée. On arrive à la fin de cette discussion. Impossible de parler de robotique sans évoquer les enjeux énergétiques de la robotisation. Une démocratisation à grande échelle, comme le prédisent et l'espèrent les géants de la tech, ça aurait des effets extrêmement néfastes sur l'environnement et la consommation énergétique, Jean-Baptiste Mouret.
Alors je ne sais pas, ça ne me paraît pas aussi évident que ça. Donc il est très clair que pour l'instant... l'entraînement des grands modèles d'intelligence artificielle coûte extrêmement cher en énergie. Ce qui est moins clair, c'est si ça, c'est une solution qui n'est pas temporaire. Énormément d'équipes industrielles et académiques travaillent sur des nouvelles puces, des nouveaux ordinateurs, qui sont spécialisés pour pouvoir faire tourner ce type de modèle. Et ça progresse très très vite. Ensuite, quand on utilise ces modèles-là, c'est aussi beaucoup moins coûteux que de les entraîner. Probablement, on va entraîner peu de modèles et les utiliser beaucoup. Et là encore, on a déjà des modèles de langage, par exemple, qui tournent sur les nouveaux téléphones, sur mon ordinateur portable. J'arrive à faire tourner des modèles de langage qui ont coûté très cher à entraîner, mais qui sont pas si chers que ça à faire tourner, parce que finalement, ils coûtent l'énergie de mon ordinateur portable, qui est, par exemple, beaucoup moins que votre bouilloire, qui consomme beaucoup d'énergie pour faire le thé, pas le café.
Côté fabrication, on peut aussi penser, on vient d'évoquer consommation énergétique, mais côté fabrication, on peut aussi penser au fait qu'il soit composé en partie de métaux rares.
Oui, alors encore une fois, je pense que c'est trop tôt pour savoir le coût écologique de ce type d'approche-là, parce qu'elles sont vraiment en pleine ébullition, en développement, et qu'il y a un intérêt très fort à ce que ça coûte pas très cher, ce qui veut dire que on veut pas qu'ils consomment trop d'énergie parce que l'énergie a un coût, on veut pas qu'ils coûtent trop cher à fabriquer, donc on va essayer de mettre le minimum de pièces à l'intérieur. Donc pour l'instant, on est vraiment à une étape d'explosion de prototypes. Et on n'est pas à l'étape, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas bien perçu dans le milieu médiatique actuellement, on est encore très loin de pouvoir déployer ça à très grande échelle partout. Donc pour l'instant, on est en train d'expérimenter. Et après, il va y avoir une étape de rationalisation, effectivement, de supprimer tout ce qui sert à rien, de baisser les coûts énergétiques, écologiques, etc. Mais c'est un peu trop tôt pour savoir.
Eh bien, merci beaucoup pour ces mots de la fin. Merci à vous deux de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Tout de suite, on parle d'un tout autre sujet. On parle de la vision des fourmis. C'est la chronique avec science d'Alexandre Morales.
Comment les fourmis compensent-elles une perte visuelle ? Ces insectes sont résilients, ils peuvent s'adapter à un handicap comme la perte d'un membre ou d'une faculté de perception comme la vue. Cette résilience des êtres vivants est surtout étudiée chez les humains pour des raisons cliniques évidemment. Une personne qui perd la vue va s'adapter et pour compenser cette perte sensorielle, les aires cérébrales dédiées à la vue vont être attribuées à d'autres sens et permettre à l'individu de redevenir fonctionnel au plus vite. Alors que ce soit chez l'humain ou chez la fourmi, cette faculté de résilience implique une certaine plasticité neuronale, mais les mécanismes qui la sous-tendent sont encore très mal connus. C'est la raison pour laquelle nos machines et nos logiciels informatiques sont encore incapables de faire preuve de résilience. Lorsqu'une machine est cassée, elle ne peut pas se réparer par elle-même, à moins que tout ait été pensé en amont. L'ingénieur qui la conçoit doit anticiper les possibles dommages qu'elle pourrait subir et lui donner les moyens de résoudre ses problèmes précis. Un organisme biologique, au contraire, est en constant développement, il se construit sans cesse, et s'il rencontre un problème, il peut s'y adapter, quand bien même il s'agirait de quelque chose qui n'aurait jamais été anticipé, comme la perte de la vue, par exemple. C'est cette éventualité que les chercheurs ont testée sur des fourmis, et ils ont publié leurs résultats dans la revue PNAS. Antoine Vustrach est neuroéthologue, chercheur CNRS à l'université Paul Sabatier de Toulouse, et dernier auteur de cette étude.
L'idée initiale, c'était pour tester, on a plusieurs modèles, des modèles assez avancés de compréhension de cerveau de nos fourmis, puisque c'est des cerveaux un peu plus simples, les insectes en général, on commence à vraiment bien comprendre leur cerveau. Et du coup, on avait un modèle qui faisait des prédictions très claires sur comment devait se comporter une fourmi si on lui cachait la vue d'un œil. Donc pour ça, c'est très simple, vous savez, les insectes ont des carapaces, même l'œil en fait est constitué de chitine, c'est une carapace, donc on peut mettre de la peinture dessus, qui fait comme un petit bandeau qu'on peut enlever après, ensuite. Donc c'est très pratique. Donc on voulait tester ça, nous on avait plusieurs familles de modèles de cerveau qui faisaient des prédictions différentes sur comment la fourmi devait réagir. C'est des prédictions très précises. Par exemple, le modèle prédisait que la fourmi devait se déplacer avec un angle de 45 degrés par rapport à sa route familière, en faisant une signature où elle accélère, puis elle freine, elle accélère, puis elle freine. Quelque chose de très particulier. Et il se trouve que quand on couvre l'œil de la fourmi, elle fait exactement ça. Donc ça validait un de nos modèles, on était assez contents.
Mais les scientifiques ont été très surpris de constater qu'après quelques heures seulement, ces fourmis à l'œil bandé étaient de nouveau capables de s'orienter tout à fait normalement. Pas étonnant, me direz-vous, elles n'avaient qu'un œil bandé. Effectivement, si on vous couvrait un seul œil, vous n'auriez pas beaucoup de mal à vous orienter. Le cerveau des fourmis, en revanche, est incapable de faire le lien entre une image perçue avec un seul œil et une image vue avec les deux yeux, ce qui explique leur grande désorientation dès lors qu'elles perdaient l'usage d'un œil. Avec ce premier résultat, Antoine Vustrach et son équipe ont remarqué que leur modèle permet de comprendre efficacement le cerveau à un temps T et de prédire la réaction immédiate de la fourmi face à la perte d'un œil. Mais il est incapable de se reconfigurer ensuite, ce que les fourmis ont pourtant fait sous leurs yeux. Ils ont donc réorienté leur recherche pour comprendre ce qu'il se passe dans le cerveau de ces insectes entre le moment où leur œil est couvert et celui où elles retrouvent un comportement normal.
Ce qu'on a vu, c'est que les fourmis, lorsqu'on leur couvre l'œil, en fait, elles se comportaient comme des fourmis naïves. C'est-à-dire, la première fois que la fourmi met la tête hors du nid, il y a un bouleversement qui va se passer dans son cerveau suite à l'exposition de ses yeux à la lumière pour la première fois. Puisqu'il faut savoir que la fourmi, à tout ce qui s'est passé dans sa vie, s'est passé à l'intérieur du nid, dans le noir, jusqu'à ce jour où elle va sortir pour chercher la nourriture. Et l'exposition de son système visuel à la lumière va faire un chamboulement dans son cerveau, une sorte de dernière métamorphose qui va lui permettre d'utiliser la vision, d'apprendre les vues autour de son nid et de faire cette tâche de fourragement à l'extérieur du nid qui est très difficile et spécialisée. Et du coup, on pensait que c'était une partie du développement de la fourmi assez fixée, ça dure 2-3 jours, ces transformations neuronales importantes, à la suite de la première sortie. Et ensuite, elle se met vraiment à fourrager et à aller chercher de la nourriture. Et là, ce qu'on a vu avec ces fourmis auxquelles on a couvert l'œil, c'est qu'elles se sont comportées comme ces fourmis naïves, comme ces 2-3 premiers jours. C'est-à-dire qu'elles sortent du nid, elles restent très proches de l'entrée et elles font des petites pirouettes pour recalibrer, réapprendre leur environnement.
Ces fourmis chevronnées sont donc capables de revenir en arrière dans leur développement au moment où elles s'adaptent au monde extérieur. Une nouvelle preuve de la grande flexibilité développementale des insectes qui sont capables de se reconfigurer, de changer leur mode d'emploi pour récupérer leur fonctionnalité. Dans ses prochains travaux, l'équipe va tenter de développer des modèles de navigation des insectes qui incorporent cette capacité à se remanier, à apprendre et qui prend en compte la plasticité cérébrale connue chez les fourmis.
Merci Alexandre pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la science CQFD, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Bruno Sansini, Noémie Eliazor, Loïc Dutoit, Ali Ruyère-Thompson. À la réalisation Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui, François Saint-Jour. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.